Et on commence comme il se doit avec le journal et Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce mardi commence avec de gros bouleversements en Algérie.
Fin de règne pour Abdelaziz Bouteflika. En Algérie, le chef d'état-major, l'un de ses fidèles, appelle à lancer une procédure de destitution. La majorité présidentielle en France, elle, dresse sa liste de candidats pour les élections européennes. Nathalie Loiseau démissionne du gouvernement pour mener la bataille. Le Parlement européen qui vient de voter la réforme des droits d'auteur en faveur des artistes contre les géants du numérique, contre le web libre, disent certains. Virés de l'office HLM de Paris à cause de leur train de vie, trois dirigeants de Paris Habitat sont partis avec plus de 850 000 euros. Et pas assez de combinaisons spatiales taille M pour les femmes. Dans l'ISS, la NASA vient d'annuler la toute première sortie dans l'espace 100% féminine.
À 18h15, un jour dans le monde, on garde un œil très attentif sur l'Algérie, Amélie, ce soir. Mais en attendant, nous sommes au Yémen. 4 ans de guerre, c'est un triste anniversaire. Un conflit dont on ne parle que par à-coups, mais un pays toujours en crise humanitaire. Il en est où, cette trêve dont on parlait tant à la fin de l'année? Ce soir, nous sommes aussi en Turquie, dans un village d'irréductibles kurdes. Et puis au téléphone sonne ce soir, on range sa chambre, ce soir, son bureau, son appart, sa voiture, ses tiroirs. Puisque c'est le printemps, c'est le moment de mettre vos placards au régime. Cette saison, et c'est la mode, qu'est-ce que procure donc le rangement quand on range son bureau? Est-ce qu'on range aussi sa tête? Pourquoi on n'arrive pas à jeter le plus souvent? Le rangement, c'est maintenant, et ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
Le président Abdelaziz Bouteflika déclaré donc inapte.
Le vieux rail s'est lâché aujourd'hui par son plus solide allié, le chef d'état-major. Le général Salah demande le lancement de la procédure pour destituer le chef de l'État pour cause de maladie grave et durable, prévoit la Constitution. Abdelaziz Bouteflika souffre des séquelles d'un AVC en 2013 et s'il a renoncé à un cinquième mandat, il prolongeait son actuel président, Saad Libitum. Bonsoir Franck Madvon.
Bonsoir Amélie.
Alors le général a signé aujourd'hui la fin de l'ère Bouteflika.
Alors c'est encore un peu tôt pour le dire, Amélie, mais c'est assurément un tournant dans la crise algérienne. Le chef d'état-major Ahmed Gaït Salah a infléchi son discours au fil des jours. Il a peu à peu pris ses distances avec le président Bouteflika. Il a même salué la semaine dernière les objectifs nobles du peuple algérien qui manifeste depuis plus d'un mois contre le régime. Et tout à l'heure, Gaït Salah a pris la parole lors d'une visite à ses troupes en province. Une solution existe, dit-il, pour sortir de la crise et il propose de déclencher l'article 102 de la Constitution. Cette procédure permet de déclarer, en effet, vous l'avez dit, le chef de l'État inapte. Si l'article 102 est activé, le président du Conseil de la Nation, l'équivalent du président du Sénat, prend l'intérim du chef de l'État pendant 45 jours au maximum. Puis, dans les 90 jours, une élection présidentielle doit être organisée. Le Conseil constitutionnel se réunit en ce moment même en Algérie pour débattre de cet article 102. Ahmed Gaït Salah est un proche du clan Bouteflika, c'est l'un des principaux visages du pouvoir depuis l'accident subi par le président en 2013. Cette prise de position peut donc faire basculer la crise, mais le mouvement de contestation veut être entendu. Il demande depuis plus d'un mois un changement de système. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de satisfaire les manifestants.
Merci beaucoup Franck Madvon. La guerre n'est peut-être pas tout à fait gagnée contre Daesh en Syrie. Le groupe État islamique revendique une attaque à Minbej dans le nord du pays. 7 combattants des forces arabo-kurdes ont été tués. Ces mêmes forces qui sont venues à bout des djihadistes à Baghouz le week-end dernier.
Allez, à la une ce soir également, Amélie, ce soir, une liste de 30 noms.
En marche vers les élections européennes du 26 mai en France. Le parti présidentiel a présenté ses candidats pour le scrutin. Tête de liste, Nathalie Loiseau, désormais ex-ministre des Affaires européennes. Elle démissionne du gouvernement demain, après le Conseil des ministres. Numéro 2, Pascal Canfin, lui aussi ancien ministre écologiste de François Hollande cette fois. Viennent ensuite la Modem, Marie-Pierre Vedrenne, le président des jeunes agriculteurs Jérémy Deserle, la navigatrice Catherine Chabot, la sénatrice Fabienne Keller de la droite macro-compatible Agir, ou encore le journaliste dont vous connaissez bien la voix sur Inter, Bernard Guetta, en 8e place. Un attelage hétéroclite. Écoutez ce qu'en dit Stanislas Guérini, député et délégué général de la REM au micro de Karine Bécard.
C'est une liste de rassemblements très large, de rassemblements de ceux qui croient en l'Europe et qui portent cette idée de renaissance européenne. C'est une liste de rassemblements, mais c'est une liste de compétences complémentaires, fidèles à la promesse que nous avons toujours portée de renouvellement de la vie politique. Beaucoup de personnalités de la société civile, des compétences qui seront utiles pour porter les combats que nous souhaitons porter au niveau européen sur les thématiques, évidemment, la transition écologique qui seront centrales dans la campagne que nous voulons mener. C'est une liste de rassemblements qui préfigure le travail que nous souhaitons mener avec d'autres formations politiques dans toute l'Europe pour faire le rassemblement des démocrates, des libéraux, des progressistes, de ceux qui veulent porter un projet européen renouvelé.
Stanislas Guérini, le délégué général de La République En Marche. Les eurodéputés dont on parle aussi aujourd'hui pour une réforme très attendue, ils viennent d'approuver au Parlement à Strasbourg la refonte des droits d'auteur. Le lobbying a été intense et les artistes engagés pour la réforme crient victoire ce soir contre les géants du numérique comme Google qui vont devoir mieux rémunérer les auteurs. Ilana Mor-Youssef a joint l'écrivain Marc Duguin.
Si l'Europe n'avait pas adopté cette directive, ça aurait été très grave, je pense. Il y aurait eu énormément de conséquences pour sa crédibilité, dans sa capacité à défendre les intérêts des uns et des autres face aux géants du numérique qui aujourd'hui, en fait, n'ont qu'une seule stratégie, c'est-à-dire obtenir des choses gratuitement pour les revendre. Les acteurs du numérique, leur philosophie, c'est de toute façon de ne rien payer, ni droit d'auteur, ni collecte des données, et de les revendre très cher pour faire de la publicité, qui représente à peu près 75% de leur chiffre d'affaires, et au final, réaliser des bénéfices qui ne sont pas taxés dans le pays dans lequel ils les ont réalisés, et qui en plus n'est même pas taxé dans un pays à taxation normale, puisque la plupart de ces dividendes partent dans des paradis fiscaux.
L'écrivain Marc Duguin. Alors de l'autre côté, les géants du numérique, eux, comme les partisans d'un Internet libre d'ailleurs, craignent une restriction de la diffusion. La réforme tant attendue a ses limites, Johanna Hochstein.
Ce qui inquiète par-dessus tout les opposants au texte, c'est l'article 13, devenu article 17 dans la nouvelle mouture. Un article qui rend responsable Facebook et Google du contenu que ces plateformes hébergent, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Les anti-directives craignent une forme de censure avec cette nouvelle responsabilité qui incombe aux géants de l'Internet. YouTube pourrait, par exemple, disent-ils, décider d'installer de nouveaux systèmes de filtrage pour éviter que des contenus illégaux, c'est-à-dire pour lesquels le créateur n'a pas perçu de droit d'auteur, ne soient hébergés sur leur page. Et puis, disent-ils, les algorithmes qui sont utilisés pour ces systèmes de filtrage automatique ne sont pas efficaces. Du contenu légal pourrait être retiré à tort. Les partisans de la liberté sur le net s'inquiètent donc d'une réduction de l'offre sur le web. Le législateur rétorque que les plateformes en ligne ont déjà recours à des filtres et que cette réforme apporte en fait un cadre juridique. Google ne pourra plus retirer du contenu de façon discrétionnaire, insiste-t-on ici. À Strasbourg, Johanna Hochstein, France Inter.
Les députés européens ont également dit oui aujourd'hui à la suppression du changement d'heure, et là une large majorité. Le texte va laisser désormais à chaque pays membre le choix de rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été. La Commission européenne face au risque d'espionnage de la Chine, elle présente aujourd'hui son plan pour développer la 5G dans l'Union. Pas question d'interdire les groupes chinois des appels d'offres européens comme Huawei banni des États-Unis, d'Australie ou du Japon. Bruxelles veut en fait davantage établir un état des lieux de la menace et améliorer l'échange d'informations. La croissance française va un peu mieux que prévu, selon l'INSEE. Le chiffre pour l'an dernier a été corrigé d'1,5 à 1,6% du PIB. Le déficit public est légèrement plus bas. Eux sont partis avec un très gros chèque pris dans une série de scandales. Trois anciens dirigeants de l'office HLM Paris Habitat ont été évincés en 2016. On apprend aujourd'hui que la sanction n'a pas été si lourde contre eux. Bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir.
En fait, ils sont partis avec plus de 850 000 euros de parachutes dorés.
Oui, c'est ce que révèle dans son dernier rapport l'autorité de contrôle du logement social, l'ANCOLS, 871 000 euros d'indemnité de départ, alors que la ville de Paris et sa maire Anne Hidalgo avaient clairement signifié à l'époque que ses cadres dirigeants avaient perdu la confiance de la municipalité. On sort alors d'une série de révélations sur la gestion du premier bailleur social parisien, affaire de surfacturation résumé et attribution de logements à de hauts fonctionnaires. Mais l'ancien directeur général partira donc en 2016 avec plus de 360 000 euros en poche et, sans en informer le conseil d'administration, il fixera lui-même avant de partir les indemnités de deux de ses collègues qui s'en iront avec en poche des chèques de plus de 200 000 euros chacun, des sommes très excessives au regard de la mission d'intérêt général de Paris Habitat et par ailleurs démesurées comparées aux pratiques habituelles de l'office, concluent les gendarmes du logement social qui décerne par ailleurs, à l'exception de cette affaire d'indemnité de départ, plutôt des bons points à Paris Habitat, qu'il s'agisse de la transparence dans les attributions de logement, des tarifs ou de la gestion du parc social ces dernières années.
Merci beaucoup Claire Chaudière.
Il est 18h10 sur France Inter quand une infox se termine par une vingtaine d'interpellations en Seine-Saint-Denis.
La fausse nouvelle, c'était une fourgonnette rôdant entre Nanterre et Colombes pour enlever des jeunes femmes et des enfants. Alors certains ont voulu faire justice eux-mêmes et s'en sont pris à des Roms violemment en représailles. La police est intervenue et a finalement arrêté la nuit dernière 19 personnes. La préfecture de Seine-Saint-Denis est allée jusqu'à publier un appel à ne pas relayer la fausse information avec ce mot-clé, hashtag fake news. Laetitia Evelyne s'est rendue à Pantin et à Bobigny.
Ils sont une petite dizaine le long de la route de Paris à Bobigny, assis par terre ou sur une haie. Ils multiplient les allers-retours à leur voiture. Un peu plus loin, les carcasses calcinées de deux camionnettes.
Pour moi, non. Ce soir, je ne vais pas rester ici parce qu'il est peut-être arrivé en copaison.
Cet homme d'une trentaine d'années vient de l'expliquer. Il ne dormira pas ici ce soir. À ses côtés, une femme s'énerve.
J'ai encore quelqu'un, je voulais parler des enfants, j'ai comme ça.
Et c'est ce qui revient, on leur a parlé d'enfants, mais ils n'ont pas compris les accusations, pas compris cette rumeur. Ils ne savent pas de quoi ils sont accusés. À quelques kilomètres au bord du périphérique, Nicolas y fait la traduction de mes questions. Dans ce campement, ils n'étaient pas au courant, mais commencent sérieusement à s'inquiéter.
Nous, on est des enfants aussi quand même, on ne fait rien, c'est très dur pour nous. Et à cause de quoi, je ne sais pas ça.
Eux non plus ne dormiront pas ici. Une jeune fille lance qu'elle veut retourner en Roumanie.
Parti la Roumanie.
Pour apaiser les esprits et éviter une nouvelle nuit de violence, des renforts de la brigade anticriminalité sont attendus ce soir aux abords des camps de Seine-Saint-Denis.
Laetitia Evelyne. Un homme arrêté aujourd'hui suspect dans l'incendie de Courchevel de janvier dernier. Le feu avait coûté la vie à deux personnes dans un immeuble de la station de ski où logeaient des saisonniers. Une vingtaine d'autres avaient été blessés. L'humoriste Yacine Bellatar en garde à vue. Il est visé par plusieurs plaintes pour menaces de violence ou de mort et pour harcèlement au travail. Au site Mediapart, il a reconnu avoir menacé des gens. Mais moi, rapportait le site, je ne suis jamais passé à l'acte, avait-il dit. On va terminer par une grosse déception pour deux astronautes américaines, Anne McLean et Christine Accord, devaient former la première équipe 100% féminine à sortir de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Une sortie dans l'espace annulée par la NASA. Et la raison fait rire, quoique, à bord de l'ISS, en fait, il n'y avait pas assez de combinaisons spatiales à la taille des deux femmes. C'est la correspondance de Grégory Phillips.
Les deux astronautes, Anne McLean et Christine Accord, devaient effectuer cette sortie de 6 heures dans l'espace ce vendredi pour installer de nouvelles batteries au lithium à l'extérieur de l'ISS. Mais hier soir, la NASA a annoncé qu'elle allait modifier la composition de cette équipe et que Accord effectuerait cette sortie avec son collègue américain, Nick Hegg. La raison, à bord de l'ISS, les combinaisons utilisées pour les sorties extravéhiculaires sont de trois tailles, moyenne, grande et très grande. Or, les deux astronautes féminines ont toutes les deux besoin d'une combinaison de taille moyenne et une seule est disponible. L'autre peut être reconfigurée mais ne sera pas prête pour vendredi. La NASA choisit donc la sécurité plutôt que le symbole de deux femmes ensemble dans l'espace. Une porte-parole explique aussi que les tailles des astronautes évoluent sensiblement quand ils sont en orbite et que c'est sans doute ce qui s'est passé. Au final, chacune de ces astronautes fera une sortie dans l'espace, mais pas toutes les deux ensemble. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et puis elle a marqué le cinéma l'an dernier avec son film Capharnaüm. La réalisatrice libanaise Nadine Labaki va présider le jury d'Un certain regard au prochain festival de Cannes, la sélection parallèle de la compétition officielle. Cannes se tire cette année du 14 au 25 mai.
Allez, tiens, et tout à l'heure, Julia Foy nous donnera sa version aussi de cette histoire de combinaison. Vous allez voir,
absolument,
c'est un poil moins sage que ce que nous raconte Grégory Phillips. À tout à l'heure, Amélie, pour Sous les radars.
Sous les radars ce soir, le meilleur professeur du monde vient d'être élu. Eh bien, il enseigne au Kenya. Et puis, on parlera également d'une fondation philanthropique accusée dans la crise des opioïdes aux États-Unis. Et puis, un petit retour en Sibérie ce soir.
Ah bah, hein,
on va pas parler d'un concours
décidément
de claques. Non, ça, on l'a fait hier. On va sauver des léopards des neiges dans l'Altaï ce soir.
Sans leur mettre de baffe, donc.
Non, on va être gentil.
Allez, à tout à l'heure, 18h37. Ce soir, nous sommes aussi au Yémen. Vous le saviez, vous, que c'est le 4e anniversaire de cette guerre au Yémen. Qui s'en soucie? Où en est cette fameuse paix de Daïda qui avait été négociée tout au long du mois de décembre? On en parle ensemble. Nous sommes aussi en Turquie ce soir, dans l'opposition kurde. On vous présentera un village d'irrésistibles et d'irréductibles kurdes, surtout de l'opposition. Et puis, 19h20, le téléphone sonne. Je vous le remets en tête pendant que vous nous écoutez. Tiens, si vous en profitiez pour ranger dans la cuisine, dans les placards, tant que vous y êtes, dans la chambre, dans le frigo, partout, le rangement, ça va avec le printemps. Mais qu'est-ce que c'est que cette manie qui fait recette dans les livres, sur Netflix et ailleurs? Ranger, est-ce que c'est vraiment signe de bonne santé? Est-ce que si je garde tout, c'est que ça va mal, docteur? On en parle ensemble, 01 45 24 7000.
La météo
Avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Et Sébastien Léa, c'est encore plus de soleil au programme de demain.
Oui Fabienne, déjà pas bien nombreux. Aujourd'hui, les nuages seront encore plus limités demain et la journée s'annonce à nouveau largement ensoleillée. En début de journée, quelques grisailles seront tout de même possibles entre le Nord-Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, ainsi que sur le Massif central. Au nord de la Loire, jusqu'au quart nord-est, l'après-midi verra quelques cumulus se développer puis s'étaler dans le ciel, mais les éclaircies resteront prédominantes. C'est au nord de la Seine que ces nuages prendront quand même le plus de place. Partout ailleurs, le soleil s'imposera dès le matin et brillera sans partage jusqu'à la tombée de la nuit. Et puis sur le quart sud-est, le vent va mollir par rapport à aujourd'hui, mais restera sensible, notamment autour de la Corse et dans la vallée du Rhône.
Et puis sinon, hausse des températures prévues demain après-midi.
Oui, avec ce fort ensoleillement attendu, les maximales vont repartir à la hausse. C'est sur la moitié sud que les températures seront le plus élevées. 17 degrés à Cognac, Ajaccio et à Nice, 18 degrés pour Grenoble et Dax, 19 à Montauban, Avignon et Saint-Tropez, et même 21 degrés à Béziers. Plus au nord, on attend 15 degrés à Besançon et à Nantes, 14 degrés à Paris, Strasbourg, Brest et Beauvais, mais seulement 11 degrés au Havre, à Dunkerque et au plateau de Langres. Et puis en début de journée, deux petites gelées sont encore à craindre, comme à Tarbes, Nevers ou encore Châlons en Champagne.
Sébastien Léas de Météo France, merci Sébastien, à tout à l'heure après 19h.